On va remercier les personnes qui se sont déplacées par ce temps un peu dissuasif. Et en cette période où bien d'autres préoccupations peut-être traversent les esprits, mais je pense qu'il était, à mon avis, heureux de faire venir Fouad Laroui, puisque le dernier ouvrage qu'il vient de publier nous permettait à la fois de découvrir de nouvelles facettes de son écriture et en même temps de retrouver, comme en une sorte d'effet de résonance, quantité de textes qu'il a déjà publiés. Alors je voudrais, avant peut-être qu'on aborde véritablement le texte, et pour expliquer justement l'inspiration, il me semble très multipolaire de ce recueil de nouvelles, je voudrais dire quelques mots de l'étonnant parcours, de l'incongru parcours de Fouad Laroui. Alors, Fouad Laroui est né au Maroc, à Oujda, c'est cela ? Et puis a fait ses études dans l'école française, au lycée Lyautey en particulier pour le secondaire, au lycée Lyautey de Casablanca.
Dans des écoles, Kenitra. Oui. J'aime bien ces écoles parce que c'est un nom très français, c'est l'école Honoré de Balzac.
Ah oui.
À Kenitra, et l'école Jean Charcot à El Jadida. Parce que c'est là que ma famille est originaire.
Oui, c'est ça, il me semblait que vous étiez d'El Jadida,
oui, oui.
Qui est une pépinière de talents et de plumes
oui.
au Maroc. Ouais. Bon.
C'est vrai.
Donc vous avez d'emblée été immergé dans la langue française.
Oui.
Et ce qui explique précisément la qualité, la merveilleuse langue que vous utilisez, sur laquelle on va revenir. Donc, ensuite, pour faire des études supérieures, vous venez à Paris. Et vous aviez déjà fait des études de classe supérieure, donc une top
au lycée Lyautey de Casablanca.
À Casa. Et vous faites rien de moins que l'école des mines
à Paris. D'abord les ponts.
Les ponts d'abord, les ponts et chaussées.
Oui.
Et ensuite les mines.
Oui, oui,
oui. Et vous devenez ingénieur,
oui, oui.
Bien sûr. Et vous allez ensuite au Maroc diriger une mine, c'est cela, de phosphate.
Un casque sur la tête.
Oui,
oui.
Bon, vous voyez bien un parcours qui, d'emblée, mène à la littérature.
Hein. On est loin de la littérature, très loin.
Et je trouve que là, on aurait pu, et vous auriez pu, choisir la facilité. On aurait pu s'attendre à ce que vous soyez installé dans une vie déjà...
J'étais installé.
Eh ben oui.
J'avais trois voitures.
Trois voitures.
Ouais. J'avais une...
Avec chauffeur dans chaque
finale. Non, mais en fait, je travaillais à l'office chérifien des phosphates, et donc j'habitais à Khouribga, mais je dirigeais une mine qui se trouve à 20 km, qui s'appelle Marah al-Harach. Et cette mine qui est la plus grande mine de phosphate du monde, en fait. Mais donc l'entreprise, l'office chérifien du phosphate, nous donnait tous une R4 pour aller à la mine, puis une Land Rover pour faire les tournées de chantier, et puis chacun avait sa voiture privée. Donc c'est pour ça que je rigole, parce que moi qui n'ai même pas de voiture maintenant, ça fait 20 ans que je n'ai pas de voiture, et il fut un temps entre mes 25 et mes 29 ans où j'avais trois voitures. Et j'ai déjà donné. J'ai plus besoin de voiture.
Voilà. Vous avez éprouvé, expérimenté à satiété le plaisir des voitures.
Oui.
Donc, c'était tout de même une situation enviable,
oui,
au Maroc. Et vous décidez, après combien d'années d'exercice dans cette mine ?
Presque 5 ans.
5 ans.
Oui.
De revenir en France, puis ensuite, en Europe en tout cas.
Oui.
Puis ensuite à Londres. C'est à Londres que vous faites un doctorat d'économie ?
En fait, je suis revenu ici, en France, et c'est là que j'ai fait, en fait, j'ai continué ce que j'avais commencé. J'étais chercheur à l'École des Mines de Paris, et j'ai repris, en fait, des études d'économie, et j'ai fait une thèse entre l'Université d'Amsterdam et l'École des Mines de Paris, une thèse d'économie, d'économétrie. C'est ensuite que je suis allé en Angleterre.
D'accord. Et donc, vous allez ensuite vivre en Angleterre,
oui,
où vous enseignez,
oui,
l'économie ?
Oui.
Puis ensuite, vous passez combien de temps en Angleterre ?
J'ai passé
plusieurs années.
Trois ans.
Trois ans ?
Oui.
Et donc, vous parlez parfaitement anglais ?
c'est
ça fait déjà trois ou quatre langues, parce que, je veux dire, pour un Marocain, il y a l'arabe dialectal, naturellement. Peut-être pas pour vous l'arabe classique dès les premières années du Maroc.
Plus tard.
Plus tard, hein. Mais donc, le français. Alors, l'anglais, vous le pratiquez, puisque vous avez enseigné, j'imagine... En français, mais vous étiez dans un contexte...
Non, j'enseignais en anglais.
Vous enseignez en anglais ?
Oui, parce que je faisais de la recherche et de l'enseignement, d'abord à Cambridge, et ensuite à York, dans le Nord. Et c'était évidemment... On ne parlait qu'anglais tout le temps. Et surtout à York, qui est une petite ville qui est très belle d'ailleurs, qui se trouve à 2 heures de train au nord de Londres. À l'époque, ça a un peu changé maintenant. C'était vraiment une ville anglo-anglaise, en ce sens qu'il n'y avait que des Anglais. C'est une ville qui n'a pas connu la révolution industrielle comme Bradford, Leeds, Manchester, Liverpool. Et donc, c'est une ville qui était très étonnamment blanche et anglaise. Mmh. Et donc, en fait, pendant les 2 ans que j'ai passé à York, je ne parlais qu'anglais du matin jusqu'au soir. Et en fait, j'étais même le seul Marocain de la ville. On venait pratiquement prendre des photos de moi.
Parce qu'il y avait
la curiosité locale. Il y avait un professeur de mathématiques égyptien avec qui je m'entendais bien. Mais on parlait tous anglais de toute façon.
Bon, donc voilà déjà une troisième langue ou une deuxième.
Ouais.
Non, une troisième, c'est bien ça. J'en perds le compte parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Et donc ensuite, après Londres, vous allez enseigner à Amsterdam.
Oui, je m'installe à Amsterdam, oui.
Donc ça fait de très nombreuses années.
Avant, je suis revenu après.
Voilà. Et donc, depuis le temps que vous vivez à Amsterdam, vous parlez parfaitement néerlandais.
Oui, j'enseigne en fait en néerlandais.
Vous enseignez en néerlandais. Voilà. Donc, et j'oubliais de dire, c'est pour ça que je m'étais perdue dans le compte, que vous aviez aussi décidé d'apprendre l'arabe classique.
Oui, oui. Parce que c'est quelque chose qui me manquait, parce que quand je suis venu à Paris, et Paris est une ville naturellement internationale, et j'ai commencé à fréquenter des gens de toutes les nationalités différentes, et c'est toujours très vexant de parler avec des Irakiens ou des Égyptiens ou des Libanais, parce que moi, bon, je leur parlais, soit on parlait français, soit on parlait arabe, et dans ce cas-là, moi, je parlais le dialecte marocain, ce qui les faisait évidemment rire tout le temps, parce que pour eux, ce n'était pas une langue.
Absolument, on sait très bien que pour les gens du Moyen-Orient...
voilà, alors, ils traitaient ça par le mépris, et puis je me suis dit, bon, alors, je vais les prendre à leur propre jeu. Je me suis mis à apprendre de façon extrêmement méthodique l'arabe classique. Et puis quand je pense l'avoir... au moment où... je pensais l'avoir bien appris, je me suis aperçu qu'eux-mêmes ne parlaient pas l'arabe classique.
Oui.
Donc ça ne servait à rien.
Oui. C'est une langue qui ne se parle pas, qui ne s'est peut-être même jamais parlée.
Hein.
On en avait discuté tout à l'heure. Donc c'est déjà, je trouve, un parcours étonnant que cette déambulation entre les langues et cette maîtrise de tant de langues. Et puis, on retrouve... Alors oui, vous étiez tout de même à Amsterdam pour enseigner... dans un premier temps, l'économie.
L'économie, oui.
Pourquoi vous aviez été formé,
oui,
vous aviez une formation.
Oui.
Puis ensuite, j'ai lu que vous avez enseigné les sciences de l'environnement.
Oui, mais ça, c'est parce que l'autre université d'Amsterdam, qui est l'université protestante d'Amsterdam, puisque j'étais dans l'université, comment dire, on appelle là-bas l'université de gauche, si on veut, mais il y a toujours une université protestante de très haut niveau, d'ailleurs, et il y a quelqu'un qui s'est aperçu que j'avais donc cette double formation ingénieur et économiste, et qui m'a dit que ce serait bien pour enseigner l'environnement, puisque l'environnement commence par des considérations de physique, chimie, vraiment, par exemple, le réchauffement planétaire, tout ça, c'est de la physique, de la chimie, puis après, on passe quand même à quelque chose qui relève de l'ingénierie, et en fin de compte, on se demande combien ça coûte, tout ça, donc on passe à l'économie. Mmh. Et donc, cette personne m'a dit qu'on cherchait quelqu'un pour enseigner les sciences de l'environnement à l'université protestante d'Amsterdam et que j'avais le bon profil. Alors moi j'ai dit j'ai peut-être le bon profil mais j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut. Il m'a dit non, pas de problème. Et là je me suis retrouvé pendant 6 ans à enseigner les sciences de l'environnement, ce qui est d'un côté très intéressant et ce qui est aussi extrêmement déprimant parce qu'on est en face de jeunes gens. On avait des étudiants qui venaient de 15 pays différents. Il y avait pas mal de Russes par exemple, de Polonais. Et de Roumains aussi, mais aussi naturellement des Néerlandais. Il y avait, je me souviens même, d'étudiants d'Australie, de Canada. Et puis, c'était des jeunes gens très idéalistes qui faisaient donc ce master de sciences de l'environnement pour sauver la planète, hein, en gros. Et ils avaient 20-22 ans. Et ce qui était un peu déprimant, c'est qu'on était obligé de leur dire que ce serait extrêmement difficile
de sauver la planète.
Et année sur année, on voyait pratiquement leur enthousiasme s'éteindre au cours de l'année. Je me sentais vraiment
responsable
et coupable même de tout ça. Donc ça a duré 6 ans. C'était passionnant, mais vraiment, c'était parfois un peu déprimant de parler d'environnement.
D'accord. Et vous écrivez depuis une quinzaine d'années, au minimum. Enfin, en tout cas, vous publiez depuis une quinzaine d'années.
1996, en fait.
Voilà, votre premier roman, c'est depuis 1996. Et est-ce que vous avez toujours écrit avant de publier? Est-ce que vous aviez commencé? Ou est-ce que c'est venu avec la maturité et avec les expériences multiples?
Non, mais ça, en France, on connaît bien. Je veux dire, je pense qu'en France, à peu près tout le monde écrit. Chacun a des manuscrits dans ses tiroirs. Chacun, au moins à l'âge de 13-14 ans, tout le monde a écrit des petits poèmes désespérés. Bon, tout le monde écrit. En fait, la question n'est pas là. C'est à partir de quel moment réellement on a la chance, à un certain moment, d'être dans une conjonction assez extraordinaire où on est pris au sérieux et on publie. Parce que C'est pas le tout d'avoir un manuscrit. En fait, en 96, j'ai envoyé un manuscrit par la poste à 5 éditeurs parisiens parce que je déménageais et j'allais en Angleterre. Et en fait, je connaissais personne. Donc vraiment, j'ai envoyé par la poste avec un timbre. Et il faut donc qu'il y ait cette conjonction assez extraordinaire que le manuscrit ait une certaine valeur sans doute, mais que aussi que l'éditeur soit à ce moment-là en train de chercher ce genre de manuscrit parce qu'il sait, alors ça c'est la troisième, ça c'est déjà deux droites qui se croisent, mais la troisième, c'est qu'il faut aussi que l'éditeur ait le sentiment que le public, enfin un certain public, attende ce genre de livre ou ce genre de style, ce genre de thème. Et là, on a donc trois droites qui se croisent en un point, ce qui, en tant que Mathieu, je peux vous dire que c'est un miracle d'être publié. C'est réellement un miracle d'être publié. Donc, la question, ce n'est pas d'avoir toujours écrit à l'âge de 8 ans, comme tout le monde, je griffonnais des trucs, des nouvelles, des choses comme ça.
Non, mais entre griffonner, écrire un petit poème et puis oser, ou avoir le sentiment qu'on a publié un texte qui mérite d'être publié et qu'on veut présenter à un éditeur, il y a une marge que beaucoup de gens ne franchissent pas.
Et justement, cette marge, moi, j'ai failli ne pas la franchir.
Oui, parce que finalement, vous avez attendu avant de le faire.
Oui, parce que...
On se demande même comment vous avez pu attendre si longtemps, parce que visiblement, vous êtes fait pour écrire. Et
alors, ça me fait plaisir que vous dites ça, mais pour moi, c'était... Maintenant, je m'en rends compte, si vous voulez, maintenant. Mais à l'époque, je pensais réellement que... il était presque impossible de se faire publier, que c'était une espèce de monde mystérieux, miraculeux, et que moi, j'étais dans mon domaine, donc en tant que matheux économiste, et je savais ce que je faisais, j'avais mon travail. Et donc ça, c'était une espèce de, presque de hobby, mais hobby que je prenais très au sérieux, mais qui probablement n'allait déboucher sur rien. Donc j'ai été le premier surpris en 96, quand Lafont, Julliard, ils ont réagi très rapidement. En deux semaines, ils m'ont contacté un lundi matin, très tôt, et c'est quelqu'un qui s'appelle Antoine Audouard, qui était le patron à l'époque de Lafont Julliard, et sa première question était très étonnante, puis il m'a eu au téléphone, il m'a dit « Est-ce que vous avez déjà signé ?» Alors, j'ai signé quoi? Moi, j'étais tellement loin de tout, d'imaginer que des choses pareilles pouvaient se...
Vous proposer un contrat.
Et puis après, il m'a dit « Vous êtes où ?» Je lui dis « Là, je suis en Angleterre. » Il me dit « Est-ce que vous venez à Paris ?» Je dis « Oui, je viens à Paris dans 2-3 semaines. » Il me dit « Venez déjeuner avec nous. » À ce moment-là, donc, j'ai déjeuné avec les gens de Lafont, Julia, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était quand même assez miraculeux d'être publié, parce que au cours du déjeuner, alors ils m'ont dit qu'ils recevaient entre 4 et 5 000 manuscrits par la poste, le groupe, tout groupe confondu, qui a Lafont, Julliard, Segers, Nil, et en fait que ces manuscrits qui arrivaient par la poste de gens parfaitement inconnus, sur ces 4 ou 5 000, ils en publiaient 3.
Oui.
Et donc là, quand vous voyez cette proportion, si je l'avais su avant, j'aurais même pas perdu l'argent du timbre.
Une autocensure.
Je fais un calcul d'espérance mathématique sur le prix du timbre et la possibilité d'être élu.
Oui, parmi justement les nombreux postulants.
Ça vaut même pas le coût du timbre. Ouais. Mais bon.
Mais bon, je pense qu'un bon éditeur ne pouvait pas passer à côté du premier texte que vous avez publié et qui faisait entendre justement une voix singulière, hein, tout à fait originale, je veux dire, par rapport à ce qui s'écrivait dans le champ littéraire en français, issu du Maghreb.
C'est une
écriture très, très originale. Oui.
C'est un peu le sentiment qu'ils m'ont donné, c'est ce qui les avait intéressés. Cela dit, il fallait, parce que c'était un manuscrit qui est arrivé par la poste, il fallait quand même que ça passe d'abord
les premières heures.
Vous savez, il fallait d'abord qu'il y ait un lecteur en bas dans la cave, avenue Marceau, qui repère ce manuscrit. Et ce lecteur, qui est une lectrice que je connais, qui est montée avec le manuscrit au troisième étage pour le poser sur la table en disant « Celui-là, il faut le lire au comité de lecture. » Donc, c'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Mais donc, c'est la preuve que c'est un bon éditeur chez lequel vous êtes publié, qui Merci. A eu justement la finesse et l'acuité pour repérer ce talent que vous avez. Et donc, depuis 1996, vous avez publié au moins sept romans. Récits, quatre recueils de nouvelles.
Nouvelles, oui.
Plus des essais.
Très sérieux.
Très sérieux. Parce qu'on va revenir sur les autres textes qui sont effectivement apparemment fantaisistes, mais qui sont tout aussi sérieux. Mais bon, il y a des textes, on va dire, qui relèvent du genre de l'essai. Un sur l'islamisme.
En 2006, oui.
Et c'est courageux de la part d'un intellectuel marocain, justement, d'affronter cette question. Et puis un essai aussi sur ce que vous avez appelé le drame linguistique marocain, c'est-à-dire justement la façon dont les jeunes enfants au Maroc sont enseignés et peut-être ballottés entre les langues, hein, entre l'arabe classique, l'arabe dialectal et les autres langues qu'on essaie de leur enseigner.
Ce qui est marrant, c'est que vous dites que sur le premier, en 2006, je sors de l'islamisme.
Oui.
Et vous dites que c'était courageux. Mais en fait, j'ai eu des ennuis sur la question linguistique.
Mais j'imagine.
C'est ça qui était très étonnant. C'est encore un paradoxe pour moi. Je sors donc en 2006 chez Robert Laffont, qui est un éditeur qui est connu sur la place. Je veux dire, c'est pas un livre qui a disparu comme ça. En plus, il a une carrière honorable. Et c'est un livre, en fait, contre l'islamisme, contre l'abus, l'utilisation, contre ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, contre tout cela. Et en ce sens, je pensais réellement que j'allais avoir des ennuis. Or, rien du tout.
Rien.
Ça s'est très bien passé. Il y a eu de quelques bonnes recensions et puis pas mal de gens l'ont lu. Mais je n'ai reçu pas une seule lettre. Bon, la seule chose qui m'a étonné, c'est que j'ai reçu des lettres, en revanche, dans la traduction néerlandaise, il y a un gars qui m'a envoyé une lettre de 80 pages. Alors, c'est la première fois de ma vie que je vois une lettre de 80 pages, mais vraiment une lettre de 80 pages. Mais c'était quelqu'un qui voulait réfuter mon livre, mais de façon assez courtoise. C'est-à-dire, il prend la peine d'écrire, mais de sa main, hein, 80 pages pour réfuter ligne par ligne mon livre. C'était un converti. C'était un néerlandais converti à l'islam qui avait viré tout de suite vers l'islam politique, ce qui est de plus extrême, ce qui est très souvent le cas d'ailleurs des convertis.
Oui, des convertis.
Et ses parents avaient vu mon livre et l'avaient acheté pour le donner à leur fils, pour lui dire c'est très beau, c'est très bien que tu sois musulman, mais au moins sois une espèce de musulman soufi,
ouvert,
mystique,
oui,
gentil, etc. C'est pas la peine d'aller vers le truc. Là. Et le gars a pris la peine de m'envoyer réellement 80 pages et en me disant ça, je suis pas d'accord parce que Dieu dit ceci, dit cela. Alors tout son argument c'est dit Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Bon, moi je suis pas en discussion avec Dieu, donc j'ai pas répondu
directement
à 80 pages. Mais ce qui est très étonnant, c'est que à part cela, et encore une fois sa lettre était courtoise, ce livre ne m'a valu aucun ennui, alors que pourtant je pensais dire des choses, surtout dans le climat actuel, qui était assez, disons, qui pouvait
qui essayait,
poser problème.
Oui, c'est ça, de montrer les erreurs, les manipulations, les instrumentalisations.
Exactement. Oui. Alors, 4 ans plus tard, et donc à ce moment-là, j'ai passé vraiment 3 ans à travailler sur mon livre sur la question linguistique, et ça, j'ai essayé réellement de faire œuvre scientifique, réellement. Donc, j'ai travaillé très sérieusement en posant la question de la question linguistique dans le Maghreb. Mais bon, j'ai dit le Maroc parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Et en revanche, ce livre-là m'a valu énormément d'ennuis. Et ce livre-là a vraiment déchaîné les passions.
La question des langues déchaîne toujours des passions dans
c'est
les pays
incroyable.
Où il y a plusieurs langues en
c'est
particulier.
C'est quand même paradoxal parce que dans un cas, quand je touchais à l'islamisme, aucune réaction. Et quand je touchais à quelque chose qui est finalement assez profane, la langue. Alors là, il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas dire. Il y a même une dame au Maroc, qui est d'ailleurs très très gentille, qui me suit de débat en débat.
Parce qu'elle espère vous convaincre.
Mais oui, mais elle est toujours là. Mais c'est une dame extrêmement charmante, et vraiment une dame de grande valeur, et qui n'est absolument pas d'accord avec ce que je dis, et qui me suit de débat en débat. Elle s'assoit généralement au troisième rang, je la vois. Elle a un petit chignon comme ça, et elle a toujours une petite feuille blanche avec plein d'arguments. Et quand c'est le moment de poser la question, elle me salue gentiment avec un sourire, on se reconnaît, je dis bonjour madame, comment allez-vous, etc. Et elle commence à m'attaquer.
Mais oui, mais vous qui êtes écrivain, vous savez bien que la langue, ça n'est pas du tout innocent. C'est plein de valeurs, c'est plein de représentations, d'affects, ça charrie énormément de passions toujours. Puis au Maroc, on le sait bien. La question est loin d'être simple, hein, même si vous avez proposé des solutions.
Mon titre initial, c'était la question linguistique marocaine, et c'est devenu le drame linguistique marocain, parce qu'après 2 ans de travail, là, je me suis rendu compte que c'était plus qu'une question, parce qu'elle englobait réellement tous les domaines de la vie quotidienne, la psychologie, enfin tout ce qu'on veut, et qu'en ce sens, à mon sens, c'est plutôt un drame qu'une question. Mais là, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure.
On reviendra sur ce texte-là. Je voulais dire aussi que vous aviez rassemblé dans un recueil des chroniques, puisque vous êtes journaliste et que vous avez...
Je ne suis pas journaliste.
Ah, vous avez tenu des chroniques dans un magazine pendant de nombreuses années, hein,
en Afrique. Je sais, ça m'amuse toujours de...
Quand on vous présente comme ça
ça m'amuse toujours de crier mon indignation quand on me présente
C'est une insulte.
Non, je vais vous dire pourquoi. Non, alors je vais être très franc, je vais faire de la peine à tous ceux qui sont journalistes.
Qui veulent l'être, qui rêvent de l'être.
Écoutez, il y a énormément de journalistes que je respecte beaucoup, Le journalisme à la Jean Daniel est parfaitement respectable, parce que c'est un homme qui sait écrire, c'est un homme de grande culture, qui lit beaucoup, un érudit, et en plus c'est un vrai journaliste, en ce sens qu'il vérifie ses sources et qu'il ne prétend pas parler de ce qu'il ne connaît pas. Donc Jean Daniel, d'accord. Pour rester dans la région, Jean Lacouture, oui, grand journaliste. Ça, ce sont des grands journalistes. Mais moi, j'ai fréquenté aussi des journalistes, justement, dans le journal dont vous parlez. C'est le gars qui arrive à 8h30 du matin. Il n'a jamais entendu parler de l'Ouzbékistan. Il ne sait pas où est l'Ouzbékistan. Il est incapable de le mettre sur une carte. D'ailleurs, il n'a jamais entendu parler de l'Ouzbékistan. Et puis, il trouve un post-it. Fais-moi un papier coco à 11h30 sur l'Ouzbékistan. Alors, le gars, il va, Google, machin, Internet, truc. À 11h30, il devient d'une outrecuidance incroyable. C'est le grand spécialiste de l'Ouzbékistan. Et il commence à engueuler les gens qui travaillent depuis 15 ans sur l'Ouzbékistan. Genre, moi, je sais quelque chose que vous ne savez pas. Alors, là, j'ai décidé de ne plus jamais m'appeler journaliste.
Journaliste, alors.
De me nommer
chroniqueur. D'accord. Donc, chroniqueur pendant de nombreuses années, vous l'êtes encore
rarement.
À l'occasion, parce que je me demande quand vous avez le temps de faire tout ce que vous faites. Vous faites aussi de la radio.
Oui, j'ai
une émission à la radio marocaine.
Le lundi, oui.
Tous les lundis,
oui,
mais depuis Amsterdam.
Oui, mais en fait, on m'appelle à midi.
Oui.
On m'appelle, téléphone qui sonne. J'avais toujours une charmante voix féminine. Là-bas à Tanger, si on pouvait tomber amoureux d'une voix, je serais déjà tombé amoureux 20 fois. C'est une voix très charmante. Mais c'est là, oui. Ben oui, ah oui, alors j'enregistre pendant 5 minutes, je dis ce que je veux dire, et ensuite, voilà.
D'accord. Donc.
Chroniqueur.
Chroniqueur, d'accord,
chroniqueur.
D'accord.
Chroniqueur. Je ne prétends pas être journaliste.
Chroniqueur dans la presse écrite et à la radio. Et puis, vous avez aussi décidé de changer de discipline d'enseignement.
Oui.
Depuis combien de temps?
Depuis 2006.
Depuis 2006.
2006, ça fait quand même 5 ans maintenant.
Vous enseignez la littérature. La
littérature française.
Voilà. Et je trouve ça incroyable.
C'est
et en même temps merveilleux.
C'est impossible.
Impossible en France,
c'est
bien
impossible,
entendu,
parce qu'on peut pas
où on
changer
a. Oui, des filières et où il est très très difficile de faire justement
en fait,
ces reconversions et ces métamorphoses. Mais c'est merveilleux que l'Université d'Amsterdam reconnaisse les compétences par la pratique d'écriture et par je dirais, la culture dont vous faites preuve dans vos chroniques ou dans vos ouvrages. On en reparlera après.
Mais en fait, c'est dû à une circonstance qui est la suivante. Et il y a 13 universités aux Pays-Bas, 11 généralistes et 2 universités techniques, très haut niveau. Et les 13 universités sont totalement autonomes, réellement totalement autonomes. C'est-à-dire personne à la Haye, au ministère de l'Enseignement supérieur, ne peut leur dire quoi que ce soit. Elles font ce qu'elles veulent. Donc leur seul rapport avec la Haye, avec donc le ministère de l'Éducation supérieure, sont des rapports de contrôle de la qualité générale de l'enseignement et des rapports financiers. Mais l'université recrute qui elle veut. Donc il n'y a même pas d'agrégation aux Pays-Bas. Bon, il y a un système de doctorat, bien sûr. Et donc quand l'université a besoin d'un enseignant, que ce soit un maître de conf, professeur. Donc, elle publie une offre d'emploi dans les journaux. Et n'importe qui peut envoyer son CV. Et donc, les gens sont sélectionnés sur leur CV. Et ils arrivent comme ça, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé devant 3 personnes, 3 professeurs. Donc, on parle avec les professeurs. Et
oui,
puis, l'université embauche.
Vous connaissez déjà en tant qu'écrivain.
Oui, alors, justement, les professeurs. Alors moi, d'abord, quand on m'a proposé, j'ai dit, je ne peux pas, parce que je n'ai pas de diplôme en lettres. Ils m'ont dit, non, mais on connaît vos conférences, les livres que vous publiez, tout cela. Et ensuite, je suis allé passer avec eux, parler avec eux. Ils m'ont dit, mais si vous enseignez la littérature, qu'est-ce que vous voudriez enseigner? Je dis, bon, ben, telle chose, le XXe siècle m'intéresse beaucoup. Alors, parlez-nous du XXe siècle. Alors, j'ai parlé un peu de la littérature du XXe siècle. Et donc, ils ont eu l'impression que je savais quand même assez pour pouvoir passer quelque chose aux étudiants. Et donc, j'ai été embauché pour enseigner la littérature française francophone du XXe siècle. Et tous les matins, je me réveille réellement avec le sentiment d'être un imposteur, vu que je n'ai pas de diplôme dans cette discipline. Mais ça fait 5-6 ans que l'imposture dure.
Bon, et qu'apparemment, la satisfaction
ça
de tous.
Oui, parce qu'en fait, après, je ne sais pas si c'est le même système en France, mais aux Pays-Bas, après chaque cours, les étudiants doivent réellement remplir une évaluation. Et chiffré du professeur et circonstancié.
Écoutez, on va proposer cette réforme aux étudiants.
Et moi, j'ai eu la chance que ce cours que je donne, en particulier ce cours que je donne sur la littérature française du XXe siècle, il a toujours eu une moyenne de 16 sur 20.
Ouais,
c'est les étudiants qui le notent. Et ça va chez le recteur. Et quand il voit que les étudiants notent un cours 16 sur 20, bon, on continue. Je veux dire, il n'y a pas de raison de l'interrompre.
Non, ça ne m'étonne pas du tout que les étudiants soient heureux d'être enseignés.
Pas du tout.
Par un écrivain et un amateur de littérature.
Non, je les ai payés.
Ah, oui, c'est une solution aussi à laquelle je songerai éventuellement si on applique le système en France. Donc, Je trouve que déjà, cette présentation rapide, néanmoins, de ce parcours explique la diversité d'inspiration de votre œuvre et de ce dernier recueil en particulier. Alors, il y a dans ce recueil 8 ou 9 nouvelles.
Et 9 au total.
9 hein, au total. Et par rapport justement aux autres récits qui se situent dans un contexte et qui, bien entendu, campent les personnages dans ce contexte, celui-là, ce recueil, permet de voyager un petit peu au gré des divers voyages et des divers séjours que j'ai évoqués.
Oui.
Donc, il y a une ou deux nouvelles qui se passent à Paris, une ou deux nouvelles qui évoquent un contexte marocain à des époques diverses,
oui.
Une nouvelle qui se passe, deux nouvelles qui se passent à Bruxelles,
oui.
Avec des personnages différents, puisque dans l'une, il s'agit d'un haut fonctionnaire marocain qui vient négocier avec des responsables européens le prix du blé qu'il doit vendre. Et c'est ce qui donne, c'est cette nouvelle qui donne son titre au recueil. Il y a aussi donc une autre nouvelle qui se passe à Bruxelles et il s'agit là, et c'est assez nouveau, je trouve, dans votre, parmi vous, tout ce que vous avez publié. C'est une nouvelle que je dirais sentimentale ou en tout cas qui traite d'un sujet qui a rapport au couple, avec un couple constitué par une Française et un Néerlandais qui se retrouve à Bruxelles. Il y a ensuite une nouvelle qui se passe à Amsterdam, et qui est très, très étonnamment écrite.
Ah oui,
oui.
Non, je ne pas que
c'est la deuxième,
la dislocation, hein,
c'est la dislocation. Donc on voit que justement dans ce recueil, vous essayez, on voit bien comment procède votre écriture. On voit que vous vous nourrissez, bien entendu, de votre propre expérience, de votre vie. Il y a certainement, même si vous ne faites pas œuvre autobiographique, des éléments de vous qu'on retrouve dans vos textes. Dans les précédents aussi, on avait le sentiment que bien des choses correspondaient à ce que vous aviez vécu. Je pense que dans l'assistance, il y a des gens qui vous ont lu, qui ont lu d'autres textes, qui ont eu ce sentiment aussi. Même si vous prenez la précaution à chaque fois de dire « ceci est une fiction ». Voilà, donc vous partez probablement de souvenirs ou d'expériences personnelles. Vous avez aussi visiblement, je dirais, une grande curiosité. Vous savez saisir au vol probablement des scènes, des situations,
oui.
des personnages.
Oui.
Des...
En fait, c'est pratiquement toujours.
Parce qu'il y a des scènes
ça,
de café où on voit que... Voilà, il y a celui de, enfin, la situation type de l'observateur qui s'assoit, qui regarde, qui discute éventuellement, mais qui est en situation aussi d'observateur, je dirais, des autres.
C'est toujours comme ça que ça commence, en fait. Il y a 2 ans, il y a un an, je crois, j'étais à Casablanca. Voilà quelque chose, je n'ai pas écrit, mais pour vous dire comment ça peut commencer, finalement, l'écriture d'une nouvelle. J'étais à Casablanca. Et je devais aller de l'Institut français, qui se trouve sur le boulevard Zerktouni, aux abattoirs, les anciens abattoirs municipaux qui ont été transformés, dans lesquels il y a des expositions. Là. Donc je voulais aller voir une exposition aux abattoirs. Donc je suis ici, devant l'Institut français, il y a un taxi, je vais à un taxi, le taxi s'arrête, je monte dans le taxi. Et donc sur le chemin des abattoirs, il s'arrête parce qu'il y a une jeune femme au bord de la route qui fait un signe. Et la jeune femme, donc moi j'étais devant, elle monte derrière nous. Et elle n'allait pas aussi loin, mais c'était sur la route. Donc après, disons, 500 mètres, elle s'arrête. Enfin, le taxi s'arrête. La jeune femme le paye. Et puis elle sort. Et il ne s'est encore rien passé. Mais à ce moment-là, lui, tout à coup, il est comme tétanisé. Il se tourne vers moi. Il me dit, elle m'a fait un clin d'œil. Remzatni. Il me dit, je lui dis, ben, grand bien te fasse. Remzatni, Remzatni. Il n'arrêtait pas de répéter comme il montrait Remzatni. Et il regardait le rétroviseur, parce que c'est là qu'il avait vu. Alors, il ne démarrait plus. Du coup, moi, je me disais, mais moi, je veux toujours aller là. Et je commençais à dire, mais peut-être qu'elle avait juste une poussière dans l'œil. Pas du tout, pas du tout, Remzatni. Et je lui dis, et il me dit, à ce moment-là, curieusement, il me dit, écoute, si tu ne peux pas descendre, je vais retourner dans son taxi. Il allait lui faire la chasse, parce qu'elle lui avait fait un clin d'œil. Je ne savais pas, moi. Et il me dit, non, mais tu ne comprends pas, mon frère, ça fait 3 ans que je cherche à me marier, je viens de repeindre la maison de mon père, elle est prête. Il me raconte toute une histoire qui n'a rien à voir avec le fait que moi, j'allais aux abattoirs voir une exposition de peinture. Alors moi, je dis, je ne sors pas de ce taxi. Il me dit, s'il te plaît, tu ne vas pas gâcher ma vie. Je lui dis, non. Et je lui dis, de toute façon, tu sais, si elle était debout sur le boulevard Zerktouni, il y a de fortes chances que demain, elle sera aussi debout sur le boulevard Zerktouni, puisque probablement, elle habite là où elle travaille là. Donc, si tu repasses stratégiquement tous les jours sur le boulevard Zerktouni, tu finiras par la retrouver. Mais moi, je veux aller aux abattoirs. Alors là, il comprend que je ne vais pas descendre de son taxi. Et alors, son taxi, c'est une espèce de Fiat 127 qui date d'avant le déluge. Mais avec cette voiture, il va, mais genre à 250 à l'heure, je ne sais pas comment il fait, jusqu'aux abattoirs. Il était tellement pressé de retourner faire la chasse à la jeune femme que je n'ai même pas eu le temps de le payer, ce qui est assez extraordinaire pour un taxi. Il a disparu comme ça. Alors, ça me donne envie de suivre.
Si vous inventez la vie ou si c'est la vie qui vous fournit des idées de
nouvelles. Là, je vous décris vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Mais alors, évidemment, un jour, je m'amuserai parce que j'aime beaucoup ce qui s'est passé, cette scène et tout. Mais alors là, j'imaginerai réellement ce qui s'est passé après. Il l'a retrouvé. Est-ce que vraiment, elle lui a fait un clin d'œil ou est-ce qu'elle ne lui a pas fait un clin d'œil, mais finalement, elle se dit pas mal, c'est bien. Enfin, on ne sait pas où c'est que ça mènera, mais ça mènera quelque part.
Oui. Donc on voit bien ça.
Et surtout, si vous le permettez. En fait, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est. J'aime bien raconter ce genre d'histoire. Parce qu'elles ont toujours un arrière-plan très intéressant et très sérieux.
J'y venais.
Parce que l'arrière-plan de cette histoire, imaginez la misère affective, la misère sexuelle de ce chauffeur de taxi. Et puis l'histoire qu'il m'a racontée, et que j'ai toujours pas tiré au clair, qu'il avait repeint la maison de son père pour pouvoir se marier. Est-ce que son père l'avait maudit et lui avait dit « si tu repeins pas ma maison, tu te maries pas » Ou bien est-ce qu'il a repeint la maison de son père en attendant que son père passe l'arme à gauche pour ses... J'ai pas compris, par exemple. Mais il y a un arrière-plan très sérieux. Le genre rapport homme-femme, est-ce que sur un clin d'œil dans un taxi, est-ce que toute une vie peut se décider? Est-ce qu'on en est là? Je trouve que c'est quand même, ça dit quelque chose sur la société.
Alors justement, ça permet de parler maintenant de la manière. Parce que vous avez quand même, on disait justement que l'éditeur avait tout de suite remarqué la qualité, l'originalité du ton. Vous avez une manière d'aborder des questions très très sérieuses, et des questions qui sont, je dirais, éternelles, et puis des questions qui sont au contraire très très actuelles. Et vous le faites toujours de façon déconcertante, parce que vous les prenez soit à rebours, soit par un biais qu'on n'attendait pas, et souvent avec beaucoup d'humour. Et je crois qu'on pourrait penser que vous prenez ça à la légère, que vous essayez toujours de tourner en dérision ces questions qui sont souvent des questions lourdes, débattues avec un ton dramatique. Et ce n'est pas du tout le cas. On va dire que c'est plutôt dans la manière de Montesquieu. Ça veut dire qu'il faut appliquer justement une sorte d'écart par rapport au point de vue habituel, se décentrer, se déplacer. Et vous avez l'art d'attaquer justement les questions par un point qu'on n'attendait pas. On peut regarder, par exemple, il y a des façons d'introduire. Alors évidemment, dans une nouvelle qui est un genre bref, c'est encore plus nécessaire, me semble-t-il, d'avoir une attaque, d'avoir un incipit qui est justement accrocheur. Mais la première nouvelle, ça commence comme ça, une réplique. La Belgique est bien la patrie du surréalisme, soupire d'Assoukine, les yeux dans le vague. Voilà. C'est une façon tout à fait étonnante d'emblée de nous introduire et dans la géographie de la Belgique, mais associé avec le surréalisme. Donc immédiatement, on se dit qu'il va se passer quelque chose de précisément absolument peu naturel ou en tout cas ordinaire, et ça va être le cas. Donc il y a cette façon justement de prendre les choses. On pourrait prendre d'autres incipits. Et de la même façon, vous avez l'art d'avoir une façon incongrue d'attaquer une nouvelle. Donc souvent, et dans les premiers récits c'était le cas, c'est par le biais de l'humour, par cette sorte, si on veut utiliser un vocabulaire technique, d'écriture oblique, disent les critiques. C'est-à-dire justement ces écritures qui ne sont pas des écritures réalistes,
vous savez,
que vous prenez les choses.
Je crois, mais j'en suis pas sûr, mais si je voulais faire une théorie de ce que vous venez de dire, c'est pas mon rôle, mais bon. Quand j'étais petit, moi je suis né dans une famille marocaine, mon père marocain, mère marocaine, mon père était d'Azemmour, d'Aljali d'Azemmour, et ma mère était d'Essaouira, dans le sud du Maroc. C'était une famille modeste, mon père était facteur. Je ne suis pas fils d'archevêque, donc on est une petite famille, mais mon père était absolument fasciné, obsédé par la culture française, et il voulait absolument que ses enfants aillent à l'école française, parce qu'il pensait que ça leur donnait plus de chances dans la vie, mais que ça leur donnait aussi un accès à une culture. La seule chose qu'on avait à la maison, c'était des livres. Alors, En fait, vu que mon père était facteur, on n'habitait pas dans une belle villa dans les beaux quartiers, mais on a toujours habité dans des quartiers populaires. Alors, comment ça se passait ? Ça se passait que j'allais avec mon frère et ma sœur, on avait à peu près le même âge, on allait à pied à l'école française, et donc pendant 8 heures, on était dans un univers, l'univers français, parce que c'était des écoles de la mission, il faut bien expliquer aux gens qui ne connaissent pas la situation, que ce n'était pas des écoles avec des enseignants français, c'était des morceaux de France là-bas, c'est-à-dire réellement toutes les cartes. En fait, tout ce qu'on voit dans les écoles ici, c'était la même chose, c'était
même
l'Académie de Bordeaux.
L'architecture, enfin, je veux dire,
absolument tout.
C'est la cour avec les platanes, enfin, c'est
la
vraiment.
La cour avec les platanes, absolument. Exactement, la récréation, l'inspecteur qui arrive de France, et puis tous les profs étaient français, des copains. Alors, donc pendant 8 heures, je suis dans cet univers-là. Puis après, avec mes frères et sœurs, on marche de nouveau vers la maison et ma mère nous attend avec généralement du thé, des tartines beurrées. Et on rentre dans un autre univers qui est en fait, en gros, celui de ma famille, qui est mon vrai. Alors, j'aime pas trop les catégories de vrai, de faux, d'authentique, mais peu importe. Mais là, il y a ma grand-mère.
Oui, il y a le Maroc populaire.
Il y a le Maroc populaire. Il y a ma grand-mère qui, en fait, le plus souvent parle en berbère. Donc, d'abord, on ne comprend pas. Pas ce qu'elle dit. Et ma mère.
Comment vous n'avez pas appris le berbère ?
Je l'apprendrai. on vit d'espoir. et puis ma mère qui s'efforce de parler français avec nous. Et puis nous, on parle français. Mais on est dans un quartier populaire. Et ce qui fait que tout ce que j'observe, et à l'époque, je suis devenu bavard sur le tard. C'est-à-dire, à l'époque, vous n'aurez pas tiré un mot. J'étais pire que Modiano.
Mais je comprends.
Pas un mot.
De passer d'un univers à un autre.
Je me taisais, mais je regardais beaucoup. Et ce qui m'étonnait toujours, c'est que, voilà, j'en arrive à cette histoire de regard oblique, parce que je ne connaissais pas l'expression, vous venez de l'apprendre. En fait, quand je regardais ma mère et ma grand-mère parler de problèmes qui, pour elles deux, étaient extrêmement importants. Et moi, je venais de l'école française où il y avait d'autres types de problèmes. Les choses étaient différentes, en gros. Et je me disais toujours, pourquoi est-ce que ça, c'est important pour elle ? Je trouvais ça ridicule d'une certaine façon. Par exemple, je me souviens, une fois, j'étais tout petit, ma mère et ma grand-mère parlent d'une femme dans la rue qui était sortie nue. C'était scandaleux. Rejette Ariana. En fait, ce que ça voulait dire, c'est qu'elle était sortie les cheveux nue, c'est-à-dire elle portait pas de... et c'était un grand scandale. Et si vous voulez, pour moi, tout ça, c'était un monde qui n'était pas le mien, mais où j'étais... Enfin, vous voyez, je vais vous dire, j'étais sans y être.
Oui, oui, sensation d'étrangeté, d'écart, de toute façon,
à tous les instants. Et puis, quand j'étais maintenant dans l'école française, c'était aussi différent, parce que moi, je m'appelais Fouad, là, oui. J'étais avec des petites Bernadette et Marie-Claire, mon premier amour. J'avais 5 ans, elle avait le même âge à peu près, une petite blonde, etc. Des gens qui s'appelaient Marie-Claire, Bernadette, Bernard, un truc, Madame Révol, monsieur. Ces gens-là étaient très sympathiques, ils m'aimaient bien et tout, mais on ne portait pas le même nom.
Qu'est-ce que ça faisait une différence, naturellement.
Ratébi disait la blessure du nom propre, un truc comme ça. J'étais pas non plus chez moi là. Donc, des deux côtés, j'étais pas vraiment chez moi.
Non, c'est probablement ce qui vous a donné cette faculté, je dirais, de prendre les choses avec...
Mais il ne faut pas en faire un drame.
Ah ben, ça m'a pas l'air d'être un drame. Pour ceux qui vous ont lu, justement, je veux dire, c'est une écriture qui, je le répète, traite à chaque fois de sujets extrêmement sérieux. On voit bien, quand vous en discutez, vous êtes sensible, justement, aux problèmes linguistiques parce que ça touche les développements psychologiques chez les enfants. Oui. Vous êtes sensible à toutes les questions de position de l'étranger ou de celui qui arrive dans un pays et qui est perçu comme différent. Vous êtes sensible à des tas de problèmes que posent, par exemple, les couples qu'on dit mixtes, c'est-à-dire avec des gens qui viennent de culture ou d'horizon culturel différent.
Et vous avez remarqué que ça fait des années que des gens me demandaient, justement, que je rencontre des lecteurs.
Mais vous traitez toujours avec une faculté.
Je me suis amusé là, parce que j'ai souvent parlé avec des gens, particulièrement des jeunes femmes d'origine marocaine qui étaient mariées avec un Français, et qui me disaient, mais est-ce que vous ne voudriez pas en faire une nouvelle ou un roman, parce que c'est quand même intéressant d'être dans un couple mixte. Mais finalement, j'en ai fait une nouvelle, mais c'est une Française qui est mariée avec un Néerlandais, très calviniste, très rigide, et elle catholique. Donc j'ai fini par faire ma nouvelle sur le couple mixte, mais ce n'est pas un couple maroco-français.
Non, c'est effectivement...
C'est un couple franco-néerlandais.
Oui, franco-néerlandais. Et il y a aussi un couple maroco-néerlandais.
Ah bon ?
Bah, dans la deuxième nouvelle dont vous ne voulez pas parler, qui est une nouvelle assez étonnante.
Ah, oui,
assez
oui.
étonnante.
Oui, c'est vrai.
Vous qui l'avez écrit.
Non, c'est vrai.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que justement, on a le sentiment quand on lit en général vos textes, que ce soit vos romans ou ces nouvelles qui sont pour la plupart extrêmement savoureuses, que c'est fait avec légèreté. En réalité, voilà, c'est une élégance, je dirais, de traiter ces questions-là avec cette faculté d'humour. Mais là, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce recueil, il y a plusieurs tons. Mmh. Donc ça se passe dans des endroits très différents, à des époques différentes. Et vous avez une palette d'écriture qui montre justement que vous avez plusieurs façons d'aborder, toujours avec cette technique, on va dire, du décalage, de l'incongruité, de la possibilité d'étonner le lecteur. Donc la première nouvelle, c'est une nouvelle assez savoureuse parce que ça porte sur une anecdote qui fausse le rapport. On va dire que vous prenez un plaisir à détourner ou à renverser ce qui fait d'habitude le rapport nord-sud. Mmh. Hein, c'est ça. Donc la suffisance, on va dire, des occidentaux ou des Européens à l'égard des gens du Sud, alors que là, c'est quelqu'un de riche, de cultivé, oui. de puissant qui vient.
Fils de Premier ministre, petit-fils de Caïd, polytechnicien, voilà. tout ce qu'on
et
veut.
Le sel de l'histoire, c'est qu'il apparaît comme une sorte de clochard parce qu'il s'est fait voler dans des circonstances qu'on ne va pas expliquer parce qu'il faut lire la nouvelle et que justement, la façon dont il perd son pantalon, ça vaut le détour. Il faut lire la nouvelle pour comprendre comment ça arrive. Et donc, il apparaît comme une sorte de clochard parce qu'on lui a prêté en catastrophe un pantalon.
Ce qui confirme les préjugés des gens
de la Commission européenne. Voilà, comme il trompe complètement son monde, eh bien, la négociation se passe 100 fois mieux qu'il ne l'avait prévu et il obtient même pas un prix intéressant, une gratuité totale pour le blé. Donc ça, voilà, c'est une façon de torpiller, je dirais, hein, de faire imploser les préjugés, les représentations, les idées toutes faites sur les relations nord-sud. Alors, et c'est traité, on va dire, avec l'art du conteur, hein, comme vous savez le faire. La deuxième nouvelle, qui s'appelle « Dislocation », est étonnante. On pourrait presque dire que c'est une technique oulipienne, hein, c'est-à-dire qu'il y a une phrase initiale, alors toujours la même technique, hein, on entre dans une nouvelle de façon tout à fait étonnante, c'est une question. Que serait, se demanda-t-il, un monde où tout serait étranger ? Voilà, ça commence comme cela, et puis il va y avoir 15 reprises de cette phrase, avec à chaque fois des proliférations qui vont l'allonger, des digressions, des commentaires, des voix multiples qui viennent se greffer là-dessus. Et on arrive à la 15e reprise à un développement de 14 pages, je crois. Hein. Et on s'aperçoit que c'est de façon vertigineuse que se pose la question qu'est-ce qu'être étranger pour l'autre Qu'est-ce que c'est que se sentir étranger Dans quelles circonstances on sent que c'est à jamais une séparation de l'autre Enfin, c'est tout à fait remarquable. Et là, c'est une manière, on va dire, plus que postmoderne, enfin tout à fait étonnante de traiter cette question. Et voilà, pour qui avait l'habitude de pratiquer vos textes, s'attendait à ce que vous alliez du côté, justement, de l'humour de la facétie.
J'ai pas pu, c'était impossible.
Là, c'était impossible.
En fait, c'est parti vraiment d'une interrogation que je me posais, ouais. et que je m'étais posée dans un autre, d'ailleurs, de mes romans, parce qu'une fois, je suis allé vendre du phosphate pendant quelques années, j'ai aussi vendu du phosphate à l'international, et un jour, je me suis retrouvé à Taïwan.
Ouais.
Et je suis sorti après les négociations sur la vente du phosphate qui se déroule dans les hôtels internationaux qui se ressemblent tous les Sofitel du monde se ressemblent, c'est la même chose. Mais ensuite, quand je suis sorti, j'ai voulu me promener dans la vieille ville de Taipei et là, je me suis retrouvé dans des petites rues où absolument tout avait l'air étranger. À ce moment-là, je me suis demandé si on allait encore plus loin parce qu'au moins, je voyais des gens quelque part, des gens qui me ressemblent, bien sûr. Il y avait même une boutique où il y avait des jolis petits chats. Moi qui adore les chats, mais après on m'a dit que c'était pour les manger, donc j'étais un peu choqué. Mais je me suis réellement posé, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Mmh. Et donc je suis parti de cette interrogation, mais qui m'a fait parler alors de quelque chose de tout à fait différent, de l'étranger qui est ailleurs, en l'occurrence aux Pays-Bas.
Et qui fait Marocain,
tout. Oui, qui est un Marocain,
enfin,
qui est aux Pays-Bas.
C'est
un Marocain, oui, probablement, qui est aux Pays-Bas. Et effectivement, ça devient une
Quand
obsession.
Ça.
Oui.
Non, c'est une nouvelle remarquable, tout à fait étonnante. Et alors, je dirais, dans la qualité de langue, avec justement ces multiples insertions de voix.
Mais là, excusez-moi, je suis trop bavard, oui. Je vous interromps tout le temps. Mais justement, mais je réponds à ce que vous disiez.
On va laisser la parole aussi.
Parce que dans cette nouvelle-là, oui. Jamais, à aucun moment, j'ai trouvé un angle comique.
Ah non, celle-là, non.
Non, c'est pour totalement, ça que j'ai dit totalement que tragique de bout en bout.
Tragique, non, parce qu'il y a, on sent que qu'il y a un poids effectivement d'angoisse, de souffrance qui se joue là. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose qui sauve, un geste tendre qui vient rasséréner, réconcilier avec le monde et rassurer. Donc c'est jamais désespéré. Mmh. Et alors c'est peut-être pour ça que par rapport à d'autres écrivains marocains ou maghrébins qui ont plutôt un univers tragique, un univers, je dirais, de la déchirure, de la blessure, votre écriture a pu paraître à certains facile. En réalité, il n'y a rien de facile là-dedans.
Non, mais ça c'est aussi une question, pour ça je parlais du drame linguistique marocain, c'est aussi une question de langue. Je veux dire, c'est pas facile non plus. Oui. Je veux dire, si vous voulez faire du drame, ouais. Du drame, vous pouvez le faire dans n'importe quelle langue, parce qu'il suffit finalement de, comme faisait Charles Dickens, de tuer un orphelin tous les trois pages ou un truc comme ça, et donc c'est tragique, c'est dur. Et ça, on peut le faire réellement dans beaucoup de langues. Et en revanche, ce qui est plus compliqué, c'est c'est de tenir la ligne entre le tragique et le dérisoire, en fait, d'être par là, et ça se demande vraiment une profonde réflexion sur la langue qu'on utilise, et surtout ce qui ne pardonne pas, c'est de faire des erreurs de registre, ou de prendre un mot pour un autre, et ça ne pardonne pas. Et alors, inversement, je pense que tout le monde n'est pas sensible à cet aspect des choses, et au contraire, on croit qu'il est plus facile de faire rire ou de faire de l'humour que l'inverse. C'est pas vrai,
pas du tout.
C'est vraiment
d'abord, je crois que vous avez toute une palette dans l'humour même. Ça va de l'humour tendre à la raillerie, au pamphlet, à la satire.
Enfin,
il y a des passages pour certaines nouvelles où il y a des parodies épiques qui sont absolument désopilantes. Bon, il y a vraiment toute une catégorisation qu'on pourrait faire. Parce que quand on dit humour, c'est un peu facile. Mais là, en l'occurrence, dans ce recueil, il n'y a pas uniquement ce choix de l'humour. Alors, vous avez parlé de la langue, on voit que vous êtes sensible. Hein. Vous avez aussi une oreille pour détecter les mots. Alors, ce ne sont jamais des mots compliqués ou des mots rares. Ou tout au moins, s'ils sont rares, c'est parce que quelquefois ils sont anciens, moins usités, mais vous aimez volontiers, je trouve, aller chercher du côté des
j'adore, mots. J'adore ça, j'adore les mots d'une façon générale.
Ouais, on le sent, ouais.
Et je trouve vraiment dommage que le sens de la langue ne soit pas.
Les commensaux
déjà avec qui on mange à table. Mais c'est beau ça.
Oui, le verbe choir.
Le verbe choir, on ne devrait pas le laisser choir, justement. Ouais. Non, mais ça, ce qui me désole, c'est quand justement la langue s'appauvrit. Et lorsqu'il y a une dizaine d'années, on a commencé à utiliser trop dans le sens d'un superlatif de trait. Il est trop beau mon truc, il est trop difficile, il est trop... Alors ça commençait à m'énerver beaucoup parce qu'on perdait une certaine nuance de la langue. Et en ce qui concerne les mots, ça c'est aussi le cas. Dire de tout ce qu'on a, c'est super ou c'est génial, moi, ça me dérange.
Sûr.
Donc je préfère garder vraiment les mots, même parfois rares et peu usités, mais qui à ce moment-là disent exactement ce que vous voulez dire.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est très important.
Il y a quelquefois des néologismes, enfin des inventions lexicales, mais pas beaucoup. Ce n'est pas de ce côté-là que vous allez. C'est justement, vous exploitez, vous essayez de cultiver la richesse déjà affirmée de la langue. Vous ne négligez aucun des registres, aucun des niveaux.
On a la chance de travailler avec une langue qui est en elle-même très riche et qui s'est aussi ouverte à beaucoup d'influences.
Ouais.
Et donc, heureusement qu'on a affaire à cette langue-là.
Mm-hmm.
Et heureusement, beaucoup de... D'ailleurs, j'ai découvert mon grand étonnement et contre un préjugé tenace que le néerlandais est aussi une langue très riche et très belle.
Oui, parce que j'ai oublié de dire que vous avez publié des recueils de poèmes en néerlandais.
Oui, non, mais ce n'est pas parce que je disais
ça. Mais non, mais je le précise, parce que votre langue d'écriture, c'est le français.
Oui, c'est le français, tout à fait.
Mais pas pour la poésie.
Donc,
je laisse la question en suspens pour tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un voudra revenir sur cette question-là. C'est assez étonnant. Bon, on ne va peut-être pas détailler, parce que je voudrais aussi que, dans le public, si certains ont des questions à poser, vous puissiez les poser sans que ce soit moi qui accapare la parole. Et vous avez certainement, je pense, si vous avez lu d'autres textes, envie d'interroger Faudelaroui sur vos réactions ou à partir de vos lectures sur tel ou tel détail. Mais je vous invite à lire ce recueil parce que... Alors, il y a aussi des sortes de petites pièces de théâtre. Il y a vraiment une grande, grande variété de ton. Alors, donc, on ne peut pas donner idée, justement, de l'ensemble du recueil par un seul passage. Mais peut-être quand même, pour le plaisir, on va vous demander de lire un passage d'une nouvelle. Avant qu'on passe aux questions.
D'accord. Je la finis pas, je fais juste quelques pages, d'accord. Alors, ça se passe dans un café. Hein. Ce sont de 4 ou 5 copains qui sont en train de bavarder. Il y en a un qui raconte une histoire. Cette histoire qui s'appelle Kouribga ou les lois de l'univers. Alors, un jour, je me suis retrouvé à Kouribga à la recherche, tenez-vous bien, des hommes qui comptent. Bizarre, non ? Notez aussi que je parle des hommes, pas des femmes. On n'en voit pas le pigiste à la recherche des égéries ou des muses. Ce serait pas mal comme titre de film. Pas d'égérie pour le pigiste. Ni non plus des colcosiennes de choc, encore moins des Cléopâtres ou des Caïna, comme si ces gueuses n'avaient pas d'équivalent dans l'empire chérifien sous Hassan II. Mais bon, vous me dites, explique. Eh bien, ça avait été une lubie soudaine du directeur de la tribune. Les pouces passaient dans les trous de son gilet, il n'avait pas les moyens de se payer des entournures, vous connaissez la pauvreté de nos gazettes. Donc, les doigts dans les trous, une casasport mal allumée pendant sa lippe dédaigneuse, les besicles sur le front, genre patron de presse, il m'avait lancé à l'aube « Vous me ferez un papier sur les hommes qui comptent !» Tout intempestif. « À Kouribga !» Je n'avais pas osé lui demander ce qu'il entendait par là. Un pigiste, ça se tait ou ça s'en va. Je ne m'étais pas davantage inquiété de l'étrangeté de cette enquête. Pourquoi diable la tribune de Casablanca s'intéresse-t-elle à ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres à l'est, en altitude, sur ce plateau aride où ne poussent que l'alpha et les ennuis ? Moi, je suis pigiste, je ne rentre pas dans ces considérations. Je m'étais donc illico rué sur la gare routière. J'avais à raisonner un quart d'attendre avant le déluge, genre qui ne tient que par la peinture, un boulon et des prières. Et après un périple dont mieux vaut que vous n'en sachiez rien, on m'a même vomi dessus, un bébé, j'avais débarqué vers midi à Kouribga, bourgade poussiéreuse, et qui entend bien le rester, où un mien cousin rôdait autour de l'office des bitumes du Tadla depuis des mois. Alors j'ai eu vite fait de lui tomber sur le paletot, vu qu'il passait toutes ses journées dans un café, espérant une embauche qui ne venait pas, qui ne viendrait jamais, mais qui lui permettait de vivre dans l'espérance. Embrassade émue, tape dans le dos, ça va mon frère, hamdoullah, et ta mère, hamdoullah, et ta soeur, hamdoullah, ça va, grâce à Dieu, la petite Nargis, sa pousse, hamdoullah, et le vieil Allah, Dieu et son âme, ah bon, machallah, et le voisin untel, on l'a pendu, et le chat, etc. 5 minutes se sont écoulées quand je me souviens, fort à propos, de l'objet de mon expédition. Hammou, lui dis-je. Il s'appelait Hammou. Ali ignore la sotte interruption. Hammou, lui dis-je, je cherche les hommes qui comptent dans cette ville. Il hoche la tête, se verse un verre de thé, sirote le breuvage brûlant, le sourcil froncé, l'œil mi-clos, perdu dans des pensées profondes comme le lac de la petite Martine. Vous vous souvenez aussi des pensées si profondes qu'on peut craindre qu'ils n'en reviennent jamais, égarés dans le monde des idées. Vous vous souvenez le cours de philo ? Puis il s'ébroue. Ça veut dire quoi, il s'ébroue ? Il s'ébroue comme un cheval et frappe du plat de la main sur la table l'air mâle et résolu. « Ali, m'assène-t-il, je les connais tous !» Sensation autour de la table. Heureux temps où l'on pouvait connaître tous les hommes qui comptent à Kouribga. Aujourd'hui, la population a explosé dans tous les sens. On en retrouve en Italie. On ne connaît même pas son voisin, monsieur. On ne sait même plus où on habite. Nous nous tûmes enfin et considérâmes d'un œil ému l'ami qui nous racontait avec tant de détails cette inouïe aventure. Pendant l'explosion de commentaires qui venait d'interrompre sa narration, il s'était mis à ronger son frein, métaphoriquement parlant, tout en caressant le chat. Lequel chat lui soumettait son derrière, selon l'us des félins, tout en ronronnant paisiblement. Le silence qui venait de s'abattre sur l'univers, sur le café de l'univers, invita Ali à reprendre son exposé. Donc, Hammoum en signale plusieurs des hommes qui comptent. Il pousse même l'obligeance à me les présenter classés par catégorie. Il est méthodique, mon cousin, comme tous les soucis. Je note in petto ce qu'il me dévoile. Je le remercie, je règle l'addition. Un thé languissant, un café insoluble. Et me plante sur le trottoir. Vous ai-je précisé qu'il faisait chaud ? On se croirait, comme dit le poète, sous les torrents d'un soleil tropical.
Quel poète ? Mais on s'en fiche, c'est juste une expression. Donc, le soleil tropical qui répand sa chaleur sur nos guérets, que faire, comme disait le vieux Vladimir ? Commençons par les entrepreneurs, me dis-je en consultant mentalement ma liste. Il y a peut-être un déjeuner à gagner. Je débute donc ma journée par Tijeni, businessman en vue, propriétaire d'une Bentley d'occasion rachetée à une vieille folle tangéroise. Je soudoie le chaouche qui monte la garde à l'entrée de l'immeuble. Il détourne opportunément le regard vers la route qui poudroie pendant que je monte un raide escalier. Me voilà à parlementer avec une secrétaire affolée dans une espèce d'antichambre. Ma parole, on dirait qu'elle n'a jamais vu un journaliste, donzelle encore moins un pigiste. À la limite, elle n'a jamais vu d'homme, tant elle bâille, bouche bée. Je tente de l'éblouir en lui montrant ma fausse carte de presse, mais sait-elle seulement lire ? Bon, elle finit par comprendre que je n'en veux pas à sa virginité, ni à son porte-monnaie. Elle file gratouiller à une porte, y passe la tête, pépi. Bref, Tijeni me reçoit dans un bureau flambant neuf, minimaliste, dans les tons gris anthracite, avec dans un coin une plante verte qui semble monter la garde. Tijeni a fait son lycée à Casablanca, une vague école d'ingénieurs en France, puis a obtenu un MBA dans une université américaine, sans trop se fatiguer d'ailleurs. J'apprendrai plus tard qu'il est hypermnésique et totalement idiot. Il est rentré au pays, on se demande bien pourquoi, pour faire plaisir à sa mère peut-être, ou alors il avait fait des bêtises dans les US. Bon, on le calomniera une autre fois. Donc, il est rentré au pays et il a créé son entreprise, baptisée Tijeni & Co., ce qui ressemble d'ailleurs à une venterie, car il est seul dans son bureau, avec la plante verte et la secrétaire aux abois. Monsieur Co brille surtout par son absence. Quoi qu'il en soit, je congratule Tijeni sur sa réussite. Bravo ! Il me montre, pas peu fier d'eux, des plans, des courbes, des schémas, des hyperboles et même une parabole. Puis il me propose, pour les besoins de mon article, de rencontrer son DF, son DRH ou même son XYZ. Tout bonhomme que je soupçonne n'existait que dans sa tête, car je n'ai vu personne dans les couloirs de Tijeni & Co., à part, faut-il le rappeler, sa secrétaire épouvantée et sa plante altière comme un hidalgo. Je soupçonne le mythomane, voire l'escroc de haute volée, mais il fait trop chaud pour tirer l'affaire au clair. Et au fond, du moment qu'il ne mange pas mon biscuit ni ne lutine ma femme, que me chaud que Tijeni soit un homme d'affaires ou un écornifleur. J'ai juste le temps de lui poser une question. Dis-moi, Tijeni, tu le tutoyais ? Ouais, à l'époque, on se tutoyait tous. Qui ça ? On. Ouais, tous ceux qui savaient lire et écrire, et qui s'écrivaient en marocain. Tu te fous de nous ? Etc, etc. 5 minutes plus tard, je lui demande, dis-moi, Tijeni, comment tu fais pour suivre les évolutions de la demande, les besoins des consommateurs, les prévisions, tout ça ? Il écarquille les yeux. Ou bien c'est ton DF qui s'en occupe ? Peut-être ton XYZ ? Il écarquille les yeux. À moins qu'il n'y ait ici une feuille confidentielle qui surveille le marché ? Il écarquille les yeux. Mais je vais voir Boaza, bien sûr, s'écrit-il, nom de Dieu. Il ne peut pas m'en dire plus, il doit s'éclipser pour un important déjeuner d'affaires auquel il oublie de m'inviter, le sagouin. Me voici sur le trottoir sur lequel le soleil dégouline des hauteurs du ciel bleu. Que calor, comme disent les Colombiens. On se croirait dans un hammam à l'heure de pointe. Je m'essuie le front avec la manche de ma chemise. Mon prochain rendez-vous est avec le gouverneur, Si Ahmed, un de ces technocrates brillants, récemment nommé par le roi à la tête des villes importantes. Je vais à pied à la préfecture, c'est au bout de l'avenue. Le chaouche, qui monte la garde devant l'imposante bâtisse, commence par me chasser comme un malpropre. Du moins, est-ce son intention ? La fourche levée, l'œil assassin, quand il comprend que je prétends, moi, simple citoyen, monter voir le gouverneur ? Mais halte là, je brandis prestement ma fausse carte de presse où les couleurs du drapeau national s'étalent comme minatoire et me fait passer pour un envoyé spécial de Basri, tant qu'à mentir. Vous vous souvenez de Driss Basri, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque ? Ouh là là ! Le seul énoncé de son nom faisait les hommes se pisser parmi. La seule perception de son visage au loin faisait les femmes s'évanouir de peur. Et les chaouches tombaient comme des mouches quand ses émissaires se présentaient au pont-levis. Nous interrompons Ali. Mais on a tous connu cette époque. Les jeunes ne veulent pas nous croire aujourd'hui. Ils minimisent les petits salopios. « Allons, allons !» disent-ils, n'était pas si terrible. « Votre Basri, notre Basri. Ah, les chiens !» Ali commence à s'énerver. « Je peux continuer ?»« Ouais, ouais, fais, fais. » Donc, le chaouche, avant d'expirer d'effroi, m'ouvre lui et me voici, me voilà, dans le bureau de Si Ahmed. L'excellence, qui ne déteste pas qu'on parle de lui, reçoit le journaleux, même pigiste, mais qu'en sait-il, avec amabilité. Il est accueillant, certes, courtois même, mais c'est aussi un visionnaire volubile qui déploie, à ma stupéfaction, des cartes en relief, on dirait Vauban, sur une grande table de réunion. Ses mains volettent au-dessus, il m'indique ceci, montre cela, souligne, désigne, efface, construit, régénère. C'est le démiurge, ma parole. Il me montre ensuite des photos aériennes prises par les drones de l'US Air Force qui n'existaient peut-être même pas à l'époque. Il me parle de projets faramineux, fantasmatiques, peut-être même pharaoniques. En tout cas, il y a un PH quelque part. Il s'effauche, il
il transpire, il s'évapore de plus en plus éloquent. La mondialisation est un jeu pour lui, l'unité de compte, le milliard de dollars. Il a rencontré Bill Gates et giflé un Chinois. J'ai fini quand même par l'interrompre. « Ahmed, tout cela est bien beau. » Mais comment vous faites ? Celui-là, tu le tutoies pas ? Oui, parce qu'on cause en français, pas en marocain, bizarre, bon, etc. Cinq minutes plus tard. Ahmed, tout cela est bien beau. Mais comment vous faites-vous pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre wilaya ? Je veux dire, au niveau du citoyen de base, le Pékin, il écarquille les yeux. Ou peut-être sont-ce les RG qui s'en occupent ? Il écarquille les yeux. Ou alors vous vous baladez incognito dans votre ville, comme autrefois Haroun Rachid dans Bagdad ? Le gouverneur lève les bras au ciel, consterné par mon ignorance. « Mais quoi, les RG ? Mais qu'est Arachide ? Pour tout savoir, je consulte Bouazza, pardi. » Bon, après, voilà, vous ne savez pas
qui c'est Bouazza. Je peux lire la nouvelle pour savoir qui est ce mystérieux Bouazza. Qui c'est ce fameux Bouazza. Et on a quelques surprises, bien sûr. Donc, voilà, merci pour cette lecture.
Merci.
Merci beaucoup, Fouad Laroui.
Merci à vous tous d'être là. Merci beaucoup. Merci.